Vérissure, tellement plus qu'une alarme.
Les cambrioleurs sont passés par le jardin. On a mis du temps à se sentir à nouveau chez nous.
Avec l'alarme Vérissure, ça n'arrivera plus. Les intrus sont détectés avant qu'ils ne pénètrent chez vous. Et en plus, nos agents préviennent les forces de l'ordre si nécessaire. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table Didier Giraud, avec Zora Bitton, Étienne Yebig, et l'Euro 2024 qui se poursuit sur RMC et ses places qu'on vous fait gagner uniquement sur RMC. Par exemple, pour la demi-finale. Alors, il y aura peut-être les Bleus si la France se qualifie vendredi face au Portugal. C'est la demi-finale mardi prochain, le 9 juillet à 21h. On vous offre deux places, mais pas seulement deux places. C'est l'expérience RMC, c'est-à-dire le voyage bien sûr à Munich, vol et hôtel, et la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match. Et puis bien sûr, vous assistez à cette demi-finale. On croise les doigts, on espère que l'équipe de France y sera. Ça sera mardi prochain à 21h. Dès que vous entendez cette alerte, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. Démarrons en musique cette deuxième heure ensemble avec ce rap qui est un rap de combat, d'engagement contre le Rassemblement National. En fait, c'est un collectif d'une vingtaine de rappeurs. Ils se sont mobilisés contre le RN et ils ont fait ce morceau qui dure 10 minutes. Extrait.
RMC, les grandes gueules.
Le rassemblement,
un pays de facettes. Le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7. Faut qu'on rembobine la cassette. La menace vient droit d'exciter ma gueule. On vote contre les ports. Jordan,
démon.
Jordan,
démon.
Ils ont tenté de nous sous-informer. Fais pas genre t'as pas remarqué là. Je fais la passe que vers la gauche, qu'elle soit en croque, soit en Margiela. Je fais pas le politicien, genre je fais pas trop le Mandela. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on vote pas Marine et Bézla.
Alors, c'est un petit extrait. Il n'y a pas forcément les paroles les plus choquantes dans l'extrait qu'on vous a diffusé parce que pour les oreilles, ça peut blesser. Le titre s'appelle « No pasaran », »,« Ils ne passeront pas », expression espagnole utilisée notamment pendant la guerre d'Espagne et qui est régulièrement maintenant utilisée dans des combats de résistance. Ce rap contre le RN, que dit vraiment le morceau? Est-ce que c'est un morceau qui peut effectivement convaincre les gens d'aller voter contre Jordan Bardella ou au contraire, c'est un morceau qui est surtout injurieux, violent, brutal, parce que c'est vrai qu'il y a des paroles particulièrement difficiles. Je pense que je vais peut-être en citer deux quand même. Donc Marine et Marion sont traitées de putes. On veut baiser la mère à Bardella. Et puis un peu plus loin, on parle beaucoup de la Palestine dans ce clip. Et puis on dénonce ceux qui veulent injecter une puce dans le sang. On parle aussi des francs-maçons. D'un complot, tu te nourris du sang que tu consommes, espèce de franc-maçon. Voilà, il y a pas mal de choses dans ces 10 minutes. Zora Bitton.
Bah, je pense qu'ils ont raté une occasion de faire une chanson respectable et utile contre les idées du RN. Dommage, ils sont passés à côté d'un truc intéressant et qui aurait pu avoir un écho important dans le peuple de gauche. Malheureusement, ils viennent de donner, encore une fois, des gages au RN en montrant qu'ils étaient incapables à la fois à la modération et qu'ils étaient indignes.
La modération, c'est pas vraiment le style du rap.
Non, mais pute, etc., en oui. Ciblant des gens personnellement, c'est complotisme. Très,
c'est sexiste et misogyne.
Alors, attendez. Sexiste, misogyne, complotiste, anti-vax, avec la Palestine de la Seine au Jourdain. Vous pouvez m'expliquer comment on peut reprocher à des gens d'être racistes? Comment la gauche peut combattre les violences sexistes et sexuelles? Comment elle peut combattre la misogynie et l'homophobie? Et nous dire que ce morceau de rap, finalement, c'est pas très grave. Il y a un moment donné, faut être cohérent. C'est-à-dire que le français, c'est pas un con.
Il y a les bons sexistes et les mauvais sexistes.
Voilà, le français, c'est pas un idiot. C'est pas parce qu'il est dans une campagne ou qu'il voterait RN que c'est un âne.
Il y a des appels à voter quand même dans ce clip, bien sûr.
Mais
les jeunes à se mobiliser.
Non, mais ça veut dire que tu appelles à voter sur quel argument? C'est là où ils ont raté quelque chose. On appelle à voter contre le RN avec des arguments respectables et avec des arguments démocratiques, pas avec des arguments de haine. Ça fait pas un projet, ça. Ça fait pas un projet.
Didier Giron. Ce que je trouve fort de café dans ce truc-là, c'est que si je me mets sur la place publique et que je me mets
tu peux pas.
Si je me mets à dire ces paroles-là, vais avoir affaire à la justice.
Quoi. Oui, mais là, t'es protégé par la création artistique.
Non, mais c'est trop facile, ça, quoi.
Donc, tu partiras pas.
À un moment donné, moi, je trouve Olivier que c'est trop facile.
La chanson, je partirai pas. Est-ce qu'elle peut être protégée par la création artistique? Non, il y a plein de plaintes.
Il y a peut-être des plaintes. Là aussi, il y aura sans doute des plaintes, parce que Marine Le Pen a dit qu'elle allait sans doute porter plainte.
Mais
elles iront pas. Il y a eu dans le passé des raps aussi qui étaient très violents, injurieux, orduriers, et en général, les plaintes n'ont pas été sujet faits. On estime que c'est de l'art.
Mais moi, je suis pas d'accord avec ce principe. L'art ne permet pas tout, quoi. Enfin, on peut pas dire, je veux plus tourner avec Depardieu et tolérer ça, quoi. Il faut plus que Depardieu fasse un film, parce que c'est les mêmes, hein. Enfin, c'est les mêmes. C'est le même con. On va dire. Dire il ne faut plus que Depardieu fasse un film en France et dire ça c'est bien, quoi.
Didier, il y a pire, c'est que lorsque la chanson Je partirai pas a été sur les réseaux sociaux et elle a fait le buzz,
c'est l'intelligence artificielle, donc ça sera difficile de porter plainte contre quelqu'un.
Mais après ils l'ont attribué à Mila, etc. Oui. Bref, en tout cas, il y a eu des plaintes et la gauche dans sa totalité n'a pas lâché l'affaire des jours et des jours. C'est faux. Aujourd'hui, il t'explique. C'est faux.
Moi, je m'en tape complètement.
Olivier, c'est faux.
Moi, je m'en tape complètement.
La classe politique. T'es pas un élu. Je te parle des politiques en général. Ils n'ont pas arrêté. Il y a eu des plaintes de la Ligue des droits de l'homme. Il y a eu des plaintes de la
Ligue. Moi, je vais te dire un truc. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Comme l'a dit Olivier, le rap, ça n'existe que parce que c'est violent. Il y a pas de rap pas violent. C'est une connerie. Le rap, faut y suivre son histoire. Les premiers rappeurs, il y a 50 ans, sont violents, sont sexistes, sont très. C'est d'ailleurs un rap pornographique. Disons, le rap, ça repose quand même sur une société en crise. C'est né parce qu'il y a une crise. C'est né parce que c'est une lutte. Et ça naît de la rue contre des gens qui dominent. Donc, il n'y a pas un système comme ça de rap qui serait sympa, cool. Voilà. Non, ça n'existe pas. C'est du pipeau. C'est pas du rap, il est même pas écouté. Donc, il est écouté par des gens de 60 ans. Je veux dire, aujourd'hui, le rap. Mais je te dis la vérité, écoute, c'est pas la peine de lever les yeux.
Orelsan, ça marche.
Orelsan, il a été condamné au début.
Oui, mais il a changé.
Mais il a pas changé, c'est parce qu'au début, on le découvrait, il a été attaqué par les féministes. Et puis après, finalement, on s'est aperçu que.
Il a été attaqué par les féministes. Oui. On attend qu'ils attaquent.
Alors là, tu viens de dire
un truc énorme. Orelsan a été attaqué par les féministes du rap. Et pourquoi eux?
Alors je continue. Deuxièmement, ce qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que le rap dont tu as parlé, il partira pas. Et celui-là, c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas sur des télés, c'est pas sur des radios, c'est pas sur des télés officielles.
C'est libre.
C'est sur des réseaux sociaux. C'est pas un
même
moment.
Même si c'est interdit,
c'est
tu pas balances.
Télé,
oui, mais tu peux porter plainte quand même.
Mais bien sûr que oui. C'est sur une télé. Et je rappelle une chose, c'est que aucun politique, à la différence de je ne partirai pas, aucun politique ne s'est amusé avec pour l'instant. C'est-à-dire, on voit pas, comme on a vu Zemmour danser sur Je partirai pas, on l'a vu danser dessus et se mettre lui-même en scène.
La presse est assez indulgente avec
d'accord.
Ce clip.
Voilà. Sauf que là,
Olivier, je peux terminer.
Là, pour l'instant, personne n'a joué avec
ça. Ils ont tenu la plume. Ils ont tenu la plume.
Si des gens veulent porter plainte contre ce rap parce qu'ils s'en sentent offusqués et ils s'en sentent.
La question.
Mais c'est sur les réseaux sociaux. Je rappelle aussi que, par exemple, quelqu'un comme Jordan Bardella a fait sa campagne sur TikTok grâce aux réseaux sociaux.
Donc on est sur un monde au-dessus des médias.
C'est pas la question.
C'est la question.
Si, parce que tu peux quand même porter plainte quand tu as une insulte sur les réseaux sociaux.
Après, ça n'aboutit pas, c'est un problème.
Je pense que le débat n'est pas sur savoir si faut porter plainte ou pas porter plainte. Le débat, c'est savoir si c'est efficace. Alors, il y a quand même il y a quelques journalistes qui ont trouvé ça formidable, notamment de ce Libération, mais c'est vrai que c'est assez amusant, ou Le Monde, alors que les mêmes sont choqués dès que on parle d'un acteur qui a de mauvais comportements. Et je veux dire, c'est deux poids, deux mesures. Si on trouve qu'un réalisateur se comporte mal, on trouve aussi insupportable que des rappeurs traitent de putes des femmes, et tiennent des propos sexistes, misogynes, et parfois même homophobes, parce qu'il y a certains rapports dans ce collectif.
Et complotistes, en plus.
complotiste. Enfin, à un moment donné, on peut pas.
La condamnation,
elle doit être unanime, à mon avis. Faisal est avec nous au 32-16.
Oui, bonjour, merci.
Bonjour Faisal, vous nous appelez, c'est un fidèle des Grandes Gueules en région parisienne. Que pensez-vous de ce clip?
Alors, comme j'ai dit, moi je suis français d'origine marocaine et musulman. Je suis né en France, j'ai grandi dans les cités HLM, mais nous, nos parents nous ont éduqués. Ils nous ont appris à respecter ce beau pays, la France, qui les a accueillis. Aujourd'hui, je suis outré, on est outré, on n'en peut plus, nous, musulmans, maghrébins, d'entendre, de voir que ces gens-là, c'est eux qui nous représentent dans les médias. On n'en peut plus de ces rappeurs, de ces footballeurs, de ces chanteurs, de ces comédiens, de ces Aya Nakamura, hier avec son tweet où elle a fait 10 000 fautes d'orthographe en l'espace de 5 lignes. Apparemment, elle ne maîtrise pas le passé composé. Moi, j'ai fait une classe préparatoire en scientifique. Je ne me sens pas, moi, représenté par ces personnes-là. Ces personnes-là, moi, ne me représentent pas. C'est une honte, ce clip, il est inadmissible. Bess Bardella, la mère de Bardella, comme vous avez dit, pute, etc. En quoi ça, c'est du respect? En quoi ça, c'est de
merci.
La tolérance?
Ils auraient pu utiliser.
Mais personne ne pense que
frappe.
C'est du respect de la
non,
tolérance.
Non, mais fais ça la raison. On peut
non,
combattre
personne,
le RN.
Personne. Non, mais attendez, vous dites en quoi c'est du respect de la
mais
tolérance?
Parce qu'il y a de la complaisance.
Attends, tu permets, on a le droit de parler, Zora.
Il y a de la complaisance.
C'est pas du respect de la tolérance. C'est de la provocation pure et simple.
Est-ce que
qui
c'est
de la provocation mais, parce mais, que c'est dans un rap.
Et c'est efficace.
Je pense pas que ça va être très efficace, d'autant plus que tout est mélangé. Et en plus, c'est amusant parce que les francs-maçons, qui ont toujours été les plus grands ennemis du Rassemblement National, sont aussi les plus grands ennemis de ces gens-là.
Bah, les extrêmes
rigolo,
se rejoignent.
Hein.
Mais fais ça la raison. On peut combattre le RN avec beaucoup
RN,
de respect.
Hein. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si on m'entend. Ce que je ne comprends pas, il y a des appels du recteur de la mosquée de Paris qui a appelé à faire barrage au RN, etc. Pourquoi ils se désolidarisent pas? Pourquoi il n'y a pas des messages pour se désolidariser de ce genre de clip? Nous, musulmans, on n'est pas représentés.
Mais c'est quel rapport avec la... Excusez-moi.
Moi, j'écoute du rap parce que le rapport...
Il y a des chrétiens...
Parce qu'il y a un amalgame.
Les ingénieurs comme Faisal, on n'est jamais médiatisés sur les plateaux télé.
Oui, on a l'impression que c'est vous représente.
Non, mais que vous parliez de migrants...
Laisse-le parler.
Mais migrants et musulmans, c'est deux choses différentes.
Mais laissez parler.
S'il vous plaît, on a une minute sur les plateaux télé pour une fois qu'on parle. Nous,
allez-y, Faisal.
Musulmans, laissez-nous au moins une minute nous exprimer pour une fois qu'on a la parole. Ce que je veux dire, moi, j'écoute du rap. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté de rap. J'ai écouté notamment Kerry James. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, oui.
Ça, c'est des paroles qui m'ont aidé, moi, à me battre, à faire une classe prépa. Et je vais vous citer les paroles de Kerry James dans ses chansons que tout le monde doit connaître, la chanson Banlieusard. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal. S'élever, progresser, lutter, même quand on a mal, banlieusard est fier de l'être, nous ne sommes pas condamnés à l'échec. Ça, c'est
bravo.
Du rap. Ça, c'est des paroles intelligentes. Ça, c'est
bien
des
sûr.
Paroles intelligentes.
Et surtout, moi, ce que fait ça, ce que je comprends pas, moi, je trouve que, alors, ce qui est bien, je trouve qu'ils appellent les jeunes, donc leur public, à voter. Surtout dans les quartiers où c'est pas là où on vote le plus. Donc ça, moi, je trouve ça plutôt bien parce que c'est un appel à mobilisation. Après, je comprends pas, c'est d'utiliser finalement les mêmes propos, la même violence ordurière que tes adversaires, en fait. Parce qu'ils dénoncent les propos racistes de Bardella et de Zemmour, hein, dans ce clip. Mais eux-mêmes font preuve de sexisme, et même limite antisémite. Parce qu'on parle de la Palestine. Je ne comprends pas pourquoi on parle de la Palestine dans un clip qui est censé dénoncer ce qui se passe ici en France législative. Alors, c'est l'obsession d'une partie de la gauche, la Palestine, mais ça n'a rien à voir avec les Juifs.
D'accord, c'est totalement contre-productif. S'il y avait des Faisal, invitez-moi sur les plateaux télé, s'il y avait des Faisal ingénieurs qui s'expriment comme moi en langage soutenu et pas en langage familier.
Bien sûr.
À respecter la France, où on parlerait de notre vécu, parce que moi j'ai grandi dans les cités HLM, donc j'ai du vécu. Si nous notre parole on la voyait plus sur les plateaux télé, mais croyez-moi qu'il y aurait même pas besoin dans ce pays de faire des appels au barrage au RN. Donc c'est totalement contre-productif. Je sais pas quoi vous dire de plus.
Faisal, il représente
en fait,
cette majorité.
La majorité silencieuse.
Voilà, Faisal, il représente la majorité silencieuse. Alors, je vais vous dire mieux que ça. C'est-à-dire que le déni et la complaisance d'une certaine gauche qui soutient des minorités agissantes, violentes et visibles, met à mal et fait beaucoup de mal à cette majorité. Parce que finalement, l'amalgame est fait et il y a une espèce de colonialisme forme de protectionnisme et de paternalisme qui fait que quand tu fais du sale et que t'es entre guillemets racisé, on doit se taire et rien dire. Mais sauf que se taire et rien dire fabrique du fantasme à l'extrême droite et de l'instrumentalisation et fabrique de l'amalgame et de la stigmatisation pour la majorité. Ouais. Donc finalement, les plus gros racistes, c'est cette gauche qui a considéré qu'elle a des opprimés de service qu'elle doit protéger, une minorité sur lequel elle a du pouvoir, sur lequel elle a le porte-parole de la discrimination et de la souffrance, et donc elle en a rien à foutre de la majorité qui est libre, individuellement émancipée, qui a choisi d'avoir l'identité qu'elle veut et de vivre ensemble avec tous les Français. Donc vous vous rendez compte que l'inversement des valeurs, c'est la gauche qui explique que elle est mieux que tout le monde et qu'elle est antiraciste, alors qu'elle fabrique du racisme quotidiennement.
Il y a beaucoup de gauche qu'on dit qu'on
soutient
ça.
Oui.
Le problème, c'est qu'on les entend peut-être pas assez.
Voilà. Le silence est complice.
Non, mais moi, j'attendrai qu'il y ait les filles qui condamnent.
Mais oui.
Pourquoi il n'y a pas les filles qui condamnent s'ils veulent devenir respectables? Enfin, voilà. Je suis désolé,
c'est un
on
truc sur les réseaux sociaux.
Marine Le Pen,
il y en a un million sur les réseaux sociaux.
Non, mais arrête, Étienne.
Moi, je trouve que cette
Marine Le Pen, elle l'a fait, la dédiabolisation. Je suis pas sûr que Mme Kéké et M. Boyard, ils ont attaqué la dédiabolisation.
Écoutez un peu de musique pour vous calmer, parce que qu'est-ce que vous criez ce matin?
À un moment donné, tu vois ce que je veux te dire, Olivier? C'est que le mec qui est dans le fond du plateau du Larzac ou au milieu du Morvan, qui écoute ça, il a jamais vu un Fessal de sa vie. Il a jamais vu un Fessal. Mais il écoute ça. Il a une envie, c'est de voter Rassemblement National.
Alors justement, écoutons Kerry James, parce qu'on parlait de ce morceau banlieusard.
Qui est un très joli morceau.
Voilà, ça c'est pour Fessal. Merci Fessal d'avoir appelé au 32-16. Dans un instant, on va continuer d'évoquer cette campagne. Vous avez vu, Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron de préparer un coup d'État administratif. En fait, elle soupçonne le président de la République de vouloir changer toutes les têtes, notamment le patron de la gendarmerie, le patron de la police, c'est vrai qu'ils doivent changer, avant l'arrivée de Jordan Bardella. D'ailleurs, elle craint beaucoup le dernier Conseil des ministres qui a lieu en ce moment, puisque c'est en Conseil des ministres qu'on paraffe les nominations des patrons de l'industrie de l'administration. Alors, est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle fantasme complètement? Elle perd ses nerfs, dit l'Élysée. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Étienne Libig, l'éducateur, l'éleveur bovin Didier Giraud et Ezor Habitant, la fonctionnaire.
Vous avez entendu?
C'est l'alerte, Cocorico, pour gagner des places pour la demi-finale des Bleus. Parce qu'on pense que les Bleus vont se qualifier. La demi-finale des Bleus, c'est mardi prochain, le 9 juillet à 21h. On vous offre l'expérience RMC, bien sûr le match, mais pas seulement parce qu'il y a le vol, l'hôtel pour Munich, et puis surtout la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match. Pour gagner ces deux places, c'est maintenant qu'il faut agir. Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. À vous de jouer et à vous de gagner, je l'espère. Nous allons continuer nos discussions à 4 jours du deuxième tour. Nous sommes en plein cœur de cette campagne assez exceptionnelle, parce que exceptionnelle par sa... c'est le fait qu'elle soit très courte, trois semaines, exceptionnel parce que ça part un peu dans tous les sens, exceptionnel parce que le RN est peut-être aux portes du pouvoir, n'a jamais été en tout cas aussi proche du pouvoir, exceptionnel parce que tous les coups sont permis. Marine Le Pen par exemple accuse désormais Emmanuel Macron de préparer un coup d'État administratif.
RMC, les grandes gueules.
Marine Le Pen soupçonne le président de la République de changer les patrons des grandes administrations françaises avant l'arrivée de Jordan Bardella. Elle parle notamment de la police, de la gendarmerie nationale. Elle pense que ce dernier Conseil des ministres, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier Conseil des ministres, donc Gabriel Attal, c'est sans doute la dernière fois qu'il sera là avec ses ministres et Emmanuel Macron à l'Élysée. Et ce dernier Conseil des ministres pourrait être justement l'occasion pour Emmanuel Macron de nommer encore quelques personnes avant de perdre le pouvoir. Est-ce que c'est du fantasme, comme l'estime l'Élysée? L'Élysée dit même que Marine Le Pen perd son sang-froid, ou est-ce qu'elle a raison et que ça s'est souvent fait comme ça dans le passé? Zor Habitant, toi qui travailles dans la fonction publique.
Oui. Non, mais d'abord, c'est pas nouveau que les hauts fonctionnaires sont changés lorsqu'il y a des mouvements politiques. Et celui-là, il est...
Non, mais là, on change avant.
Oui, on change avant, bien sûr. Mais parce que je pense qu'à l'Élysée, on se rend compte que peut-être qu'il faut avoir des gens différents pour gérer peut-être une cohabitation, on ne sait pas. Une cohabitation, c'est pas rien. En plus, une cohabitation.
Donc on met des gens à nous pour,
c'est un peu
pour garder
logique,
du pouvoir.
Mais je pense que si l'inverse, si le RN était au pouvoir, ferait la même chose.
Qu'est-ce qu'il va faire ?
Mais est-ce que c'est très démocratique tout ça ?
Non, pas vraiment, pas vraiment. Ça veut dire que est-ce qu'il y a de la démocratie ?
Parce qu'aux États-Unis, tu connais le système américain,
on
l'appelle le spoil system, c'est-à-dire que quand arrive un nouveau président, il licencie tous les patrons d'administration pour mettre ses hommes et ses femmes à lui et pour pouvoir gouverner. Moi, je me souviens d'un Emmanuel Macron dès 2017, se plaignait de pas pouvoir appliquer plus rapidement sa politique parce qu'il y avait toujours des freins au sein de l'administration. Et j'ai beaucoup entendu les politiques dire ça, mais derrière ça coince.
Ce qui est vrai, le pouvoir, c'est la technostructure qui a le pouvoir. La technostructure peut libérer. Non, mais ce qui est hallucinant dans ce pays, c'est les gens parlent souvent du pouvoir là-haut au château. Ils ont oublié deux pouvoirs importants. Le pouvoir de la technostructure et des hauts fonctionnaires qui décident ou pas de mettre en application des politiques décidées. C'est un problème depuis très longtemps d'ailleurs. Et il y a le deuxième pouvoir, c'est celui des élus locaux. Chaque élu local fait un bout du territoire. Et la politique de chaque élu local dessine l'ensemble du territoire. Et cela, on n'en parle jamais. Parce que lorsque vous décidez d'une politique au plus haut sommet de l'État et que ça traîne des pieds pour la mettre en œuvre, ils n'ont pas le temps, il n'y a pas les budgets.
C'est pas que les élus locaux. L'administration locale.
Je vous explique comment il y a deux couches, comment il y a deux univers dont on parle jamais. On parle du pouvoir central là-haut, mais les deux pouvoirs les plus concentrés dans ce pays, ce sont les élus locaux et c'est les hauts fonctionnaires. Alors, et la technostructure.
Les élus locaux, ils n'ont plus un radis. Donc concrètement, la politique pour la mettre en œuvre, il faut déjà qu'ils trouvent les budgets.
Je vais te donner des exemples concrets. Quand tu décides du clientélisme et que ta ville se dessine d'une certaine façon, quand tu décides de privilégier un certain nombre de choses et pas d'autres.
Mais bien sûr que ça existe. Mais en même temps, ce que je te dis aussi, c'est que tu décris un pouvoir dans les élus locaux. Moi, je connais plein d'endroits où les élus locaux, ils n'ont pas un radis. Donc, ils ont des missions, ils n'ont pas un radis. Et à un moment donné, il y a des endroits où l'élu local a du pouvoir et l'applique mal. Ça fait 20 ans que tous les chefs d'entreprise, tous les artisans, les petits patrons de PME le disent. Aujourd'hui, on bute sur des gens qui n'appliquent pas la politique décrétée par les politiques.
C'est un problème.
C'est partout. C'est dans toutes les strates de la société.
Mais c'est un problème démocratique. Les gens votent pour un programme, qu'on soit d'accord ou pas, il faut qu'il s'applique.
Mais totalement.
Parce que sinon, moi, je pense
que
c'est ça qui crée.
Mais toi, t'as jamais été élu, Olivier, parce que je peux te dire que tu le verrais si t'étais élu.
Si, parce que les élus nous le disent. Mais moi, je pense que ça explique en partie à la fois
le rejet du système,
la colère, le fait que finalement les politiques ils nous promettent des choses mais ils peuvent jamais les appliquer. Par exemple, ce matin, je disais dans le journal L'Opinion que pour remplacer Laurent Fabius à la présidence du Conseil constitutionnel, le président de la République pensait à l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.
Est-ce que, déjà
à la tête du Conseil constitutionnel, doit-on nommer des gens qui font de la politique, qui viennent d'être ministres dans un camp? Enfin, moi je trouve que ça pose des questions.
Déjà, à quoi ça sert le Conseil?
C'est important, le Conseil constitutionnel, c'est un des principaux contre-pouvoirs de ce pays, mais ça peut pas être quelque chose de politique.
Ça va tellement loin dans le pouvoir de la technostructure que c'est tellement instrumentalisé que, à la fois, je pense que Marine Le Pen, elle grossit le trait sur ce qui se passe, elle crie au loup comme Pierre et le loup, mais à la fois, Macron va faire ses jours des nominations qui n'étaient peut-être pas obligées, histoire de leur filer des pots de banane. Je pense que c'est tellement institutionnalisé le fait que l'administration peut faire la sclérose en plaques pour empêcher des politiques de se mettre en œuvre, qu'ils en jouent, qu'ils en usent et qu'ils en abusent.
Et donc, il faut faire le système américain.
Je pense que Mme Le Pen, elle devrait être prudente sur ce sujet parce qu'il ne fait aucun doute que lorsqu'elle va être au pouvoir, si elle arrive au pouvoir, la première chose qu'elle va faire, c'est de virer les gens qui ne lui plaisent pas et avant mettre d'autres. Et moi, là-dedans, ce qui me gêne, c'est qu'on suppose que les hauts fonctionnaires ne sont pas au service de l'État, mais sont au service de leurs intérêts propres. Il y a quelque chose là-dedans de totalement immoral et de totalement... il y a un moment... On en avait parlé ici avec Madame Aupetit-Claire.
à un moment, quand tu te retrouves, on connaissait bien Claire. Quand elle s'est retrouvée députée, j'avais eu cette discussion avec elle, on peut la retrouver. Je lui avais dit, mais est-ce qu'on ressent une sorte de responsabilité nouvelle qui fait qu'on change, c'est-à-dire on met ses opinions un peu de côté par rapport à l'intérêt général, on se sent investi d'une responsabilité. Moi, je pense que quand on se retrouve haut fonctionnaire, bien sûr, on a des idées, on a une idéologie, etc. Mais quand on se retrouve haut fonctionnaire, quand on se retrouve élu face à la réalité et face à ses responsabilités, normalement, une femme et un homme normal, politique, prend d'un seul coup conscience de son rôle. Non, mais... Et je pense qu'il est au service du pays et qu'il n'est plus au service de son idéologie. En tout cas, j'ose l'espérer.
Vis dans la vie des bisounours.
Oui, c'est ça.
Je suis désolé. Parce que moi, des exemples, j'en ai une liste gros comme le catalogue de la Redoute.
Ouais.
Jusque, tu vois, alors, je vais en citer un. Le directeur général du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté est en train de faire perdre 53 millions d'euros de pognon européen aux paysans de la région.
Quoi. Je croyais que l'UE, c'était
par
de la merde,
idéologie. Alors... Juste par idéologie, par incompétence et pour faire chier le monde, quoi.
C'est pas que les hauts fonctionnaires
qui ont ce pouvoir de nuisance. Ça va jusque dans celui qui est caché dans le placard à balai dans chaque DDT, quoi. On peut faire de l'idéologie et faire chier le monde.
Non, on parle pas comme
par
ça.
Par idéologie.
J'ai arrêté de parler
juste,
comme ça.
Non, mais on peut empêcher une politique de se mettre en œuvre juste par idéologie, y compris quand on est un tout petit fonctionnaire.
Je pense que c'est très dommage que.
Mais pour ça, il faudra
arriver à cette position. Je suis d'accord avec toi.
Le système du
Qu'on arrive à cette position et en même temps, on sait bien que par exemple, je me rappelle, je citais tout à l'heure quand Macron est arrivé, il a viré l'état-major
militaire. Le chef de l'état-major, Gérard De Villiers.
Voilà, enfin, parce qu'il savait qu'il était contre lui, et lui est chef des armées, et il savait que c'était une idéologie complètement différente de la... Il y avait quelque chose là.
Non, c'est vrai que pas une idéologie. Gérard De Villiers, il avait simplement dit, il faut donner plus de moyens à l'armée.
Il était sorti de son devoir de réserve.
Ouais. Ouais. On l'a reçu ici.
Mais oui.
Alors, il a gagné puisqu'on a donné 500 milliards à l'armée.
On l'a reçu. Bah, heureusement qu'on l'a donné parce que pour
il n'avait pas été collé des affiches contre Macron.
Finalement, Gérard De Villiers avait raison puisque finalement, on a une armée qui
était sous. Mais il n'y avait pas la guerre. La Russie nous menaçait pas à l'époque.
Mais il était visionnaire.
Non, mais qui était sous-doté. Oui, mais un budget militaire, ça ne se décide pas du lundi au mardi. C'est-à-dire qu'il faut anticiper.
Sur 5 ans.
Et c'était pas anticipé. Gérard De Villiers, finalement, les faits lui ont donné raison. Mais il a été remercié, non pas par idéologie, mais parce qu'il était sorti de son devoir de réserve. Il avait parlé en disant il n'y a pas assez de moyens.
Non, mais Olivier, tu peux pas nier que quand tu arrives dans la place, il y a énormément de hauts fonctionnaires qui sont acquis au président d'avant ou à la
Pourquoi tu parles toujours des hauts fonctionnaires?
Non mais d'accord.
Dans tous les échelons, il y a des fonctionnaires acquis à une cause, un président de conseil départemental, on vote pour le. Quand il arrive dans la place, derrière une alternance socialiste, lui il était UMP, il met plus d'un mandat à ce que les gens qui sont ses collaborateurs acceptent d'appliquer sa propre politique.
C'est vrai dans toutes les boîtes, ça peut te rassurer. Hein.
Non, ça va plus vite dans les boîtes, je peux te dire.
Oui, ça va un peu plus vite dans les boîtes.
Parce que c'est pas les mêmes statuts.
Il y a aussi des pots de banane dans une PME, le patron, c'est le patron. Si tu fais pas de chiffre, tu fermes.
Hein.
Oui, voilà. Mais PME.
C'est un objectif. Hein.
Oui, je suis d'accord.
Moi, je pense que ça crée une espèce d'incompréhension de la part des électeurs qui disent mais pourquoi ça ne change pas alors que mon candidat a promis que ça changeait.
Oui, et ça fait en sorte que les élus. Il y a des moments où, enfin, ils jettent l'éponge, quoi. Dans tout ce qui est intercommunalité, jusqu'au niveau département, voire même région, les élus, s'ils s'engagent plus,
c'est parce qu'ils
butent contre ça, quoi. À un moment donné, ils ont des idées, ils ont des politiques à mettre en œuvre et ils n'y arrivent pas.
Ils sont élus.
On peut pas mettre sur le même niveau
les gens qui sont élus par le peuple et les gens qui sont payés par l'État. C'est pas tout à fait la même chose.
Les élus, à force de ne pas pouvoir faire appliquer leur politique, parce que ils ont des collaborateurs.
Mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le reproche qui est fait de changer des hauts cadres de l'État. C'est pas le reproche de dire que des élus, ils sont élus.
Ça ne me choquerait pas.
On va pas virer des élus.
Non, ce que je te dis, c'est que ça fait une crise politique dans ce pays. Entre autres, dans les fonctions d'élus, il y a des gens qui veulent pas aller, qui veulent plus s'engager en politique parce que ils savent que leur politique ne seront pas appliquées, quoi.
sur un côté. Moi, ça me choquerait pas que quand un nouveau pouvoir arrive,
moi non plus,
qui change, le patron de la gendarmerie, le patron de la police, sur, bah non, puisque là, c'est des gens qui vont nommer, qui seront pas débarqués. Parce qu'en plus, si tu les débarques, tu vas voir, si jamais il y a quelqu'un qui est débarqué, on fera le procès à Bardella, oui, il change les têtes, etc.
On a fait le procès à Macron, mais ça se fait quand même.
Et moi, ça me choque pas. Moi, au contraire, qu'Emmanuel Macron, quand il arrive en 2017, qu'il a envie d'avoir des gens qui vont appliquer sa politique, ça me choque pas. Oui, mais en France, on va lui reprocher. Parce que, oh là là, si tu veux, en France, on a une telle admiration de l'État, etc.
Mais ça
en
va
France,
se faire quand même, reproche ou pas.
Alors, moi, je pense que c'est des freins. Au
parce
contraire.
Qu'on reproche aux politiques, ils doivent reprendre la main. Les gens ne font pas de politique, ce qui est faux.
Ouais, le politique doit reprendre la main sur l'administration.
Total. Mais parce que c'est pour ça que
sinon,
tout le monde
on
dit,
rien dans ce pays.
C'est pour ça que souvent la gauche dit, si le RN prend le pouvoir, la technostructure le bloquera.
Mais oui, mais c'est pas normal.
C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils disent. Oui. Et moi, quand je pose la question à pas mal de hauts fonctionnaires, ils disent non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a la technostructure qui va empêcher le RN de mettre en œuvre.
Bah oui, mais
alors
c'est
t'imagines,
c'est un déni
désistement,
démocratie.
Appel à voter, t'as pas le choix.
J'ai pas entendu
et,
ça. Hein. Moi,
j'ai entendu c'est la règle.
J'ai entendu un gros souci.
J'ai entendu des profs qui menaçaient de démissionner.
Voilà.
Oui,
et
démissionner, c'est
ne pas appliquer.
Ah, mais c'est leur affaire. Démissionner, ne plus être payé. Ne plus être payé. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de soucis, beaucoup de soucis, notamment dans mon taf, d'élus, départementaux.
Allez,
qui sont obligés d'appliquer des mesures contre lesquelles. Notamment la discrimination.
Dans un instant, les Français en direct, mais regardons le résultat de notre consultation. Est-ce que Macron prépare un coup d'État administratif? On regarde le résultat, c'est oui à 84,2%. Dans un instant, nous partons à Nice avec notre reporter Romain Poiseau qui est du côté de Nice et avec ses Français qui se posent beaucoup de questions entre ces deux tours. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table ce matin Zora Habitant, la fonctionnaire, Didier Giraud, l'éleveur de bovins, l'éducateur Étienne Hébig et les Français en direct.
RMC, législative 2024, les Français en direct.
Toutes les heures, nous retrouvons un reporter qui sillonne l'hexagone entre ces deux tours et nous sommes avec Romain Poiseau. Salut Romain, du côté
bonjour,
de Nice.
Bonjour. Bonjour, eh ben écoutez, je suis dans un petit appartement avec un petit bout de chou de 10 mois et sa maman. Sa maman, c'est Lydia, elle est burkinabaise italienne, elle vit depuis 12 ans maintenant en France, elle travaille dans la restauration et elle supporte plus bien ce climat politique nauséabond, dit-elle. Elle aime la France, mais elle va peut-être la quitter si le Rassemblement National accède au pouvoir. Lydia, vous avez renoncé d'ailleurs à votre démarche de naturalisation française, c'est ça ?
Oui, bonjour Romain, bonjour à toute l'équipe. Oui,
bonjour.
Je m'appelle Lydia. Oui. Et j'aime la France. J'habite à Nice depuis 12 ans. J'ai même envisagé de demander la naturalisation pour devenir française. Mais si le Rassemblement National passe, je renonce. Parce que je ne veux pas être stigmatisée. Et parce que tous les maux de la France sont dus aux immigrés, ce qui n'est pas le cas. C'est pas tous les immigrés aussi qui sont en France pour bénéficier du social, de la CAF et tout. C'est une minorité et il faudrait pas généraliser sur tout le monde. Moi, je suis en France depuis 2012, je travaille, je gagne bien ma vie.
Vous êtes arrivé, Lydia. Bonjour, c'est Olivier Truchot. Vous êtes arrivé quand en France, Lydia ?
2012.
Depuis 2012.
D'accord. Et donc, depuis 2012, vous travaillez dans la restauration, c'est ça ?
Non, au fait, je suis venue à Nice pour continuer mes études et c'est après les études que je suis restée et je suis entrée dans la restauration en 2019.
Et donc, ça fait 12 ans que vous êtes sur le territoire français. Vous vouliez devenir française, vous aviez commencé à faire des démarches ?
Oui, j'avais envisagé de commencer à faire les démarches cette année pour prendre la nationalité française parce que j'adore la France. Sinon, je suis déjà italienne et beaucoup même m'ont dit pourquoi tu es italienne et que tu veux encore demander la naturalisation pour être française puisque c'est l'Union européenne.
Donc vous êtes burkinabé italienne pour l'instant.
Voilà, j'ai dit c'est parce que j'aime la France et j'adore la culture française. Je me sens très très bien en France, à Nice et... Même si je vais renoncer à une de mes nationalités pour prendre la nationalité française, je vais le faire.
D'accord. Mais là, vous hésitez alors ?
Oui, avec le climat politique actuel, si le Rassemblement national passe, je ne vais même plus demander la naturalisation parce que je ne peux pas vivre dans un pays où je suis stigmatisée, où c'est la division, où on pense que tous les maux des Français sont dus aux immigrés.
Habitants.
Bah moi, je souscris totalement à ce que vous dites. Effectivement, l'essentialisation des gens, c'est de la haine pure. On peut pas considérer que tous les ruraux seraient des fachos, que tous les immigrés seraient des profiteurs, et ainsi de suite. Ça, c'est pas acceptable dans un pays. Je pense que il y a des individus. Il y a des minorités visibles, agissantes. Il y a deux problèmes. Écoutez bien, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des minorités agissantes, elles sont instrumentalisées par ceux qui veulent faire croire que c'est tout le monde. Et elles sont niées par ceux qui veulent les protéger. En fait, ça s'auto-alimente. Parce que quand vous refusez de regarder la réalité de cette minorité, vous la livrez à ceux qui veulent l'instrumentaliser. Donc l'honnêteté, ça protège tout le monde. C'est ce que vous avez dit au départ. C'est l'honnêteté qui protège tout le monde. Nous sommes tous d'accord qu'il y a une minorité qui pose un problème. En la dénonçant, le but, c'est de protéger la majorité. D'accord ?
Exactement.
Vous avez toute la... Vous avez raison de vouloir devenir français, c'est un beau pays, vous l'aimez, et ça nous suffit. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être blanc, vert, jaune, d'être arrivé il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans. L'important, c'est d'aimer ce pays, de respecter ses valeurs, de respecter ses lois et ses règles, et c'est suffisant. C'est suffisant. Exactement. Mais quand vous avez une majorité de gauche qui, sous couvert de complaisance, attends.
Ça s'appelle une inversion.
Mais non, ça s'appelle une protection.
Ça s'appelle
une protection de la majorité.
Tout est de la faute de la gauche.
Elle comprend, même Lydia, elle comprend ce que je veux dire. Elle comprend que quand tu nies, tu soignes pas, tu livres à des fantasmes les autres. Mais est-ce que vous pouvez confirmer ce que je dis ?
Alors, Lydia.
C'est pas parce qu'une minorité a commis des actes qui vont à l'encontre de la culture française qu'on va penser que c'est tous les immigrés qui sont
exactement.
Comme ça.
Mais c'est la politique.
Tous les immigrés ne sont pas des criminels, ne sont pas des malfrats.
Et du coup, moi, j'arrive pas à comprendre, Lydia, c'est quoi votre cheminement qui vous fait dire, du coup, je ne veux plus être française, alors ?
Parce que déjà, le Rassemblement national est en train de diviser la France.
Mais en quoi ?
Ils font croire aux Français que si la France est dans une situation catastrophique aujourd'hui, c'est à cause des immigrés. C'est à cause du social qu'on est en train de vider les caisses des Français pour nourrir, blanchir des étrangers, comme si c'est la majorité.
Pourtant,
ou
les
tous
chiffres,
les étrangers.
Les chiffres sont vérifiables. Hein. C'est faux. Et les chiffres sont vérifiables et personne ne va les vérifier.
Oui, mais le problème, c'est le fantasme.
Bah oui, c'est ça.
Le problème, c'est le fantasme.
C'est ça.
C'est ce qu'on explique. C'est le fantasme. Quand tu nies, tu alimentes le fantasme.
Lydia, un dernier mot, Lydia.
Exactement.
Mais oui.
C'est comme dire que tous les Français qui sont au Canada ou aux États-Unis sont des criminels et du coup, il faut les rapatrier tous en France.
Bien sûr.
Pour protéger les Canadiens, pour protéger les Américains et autres. Alors que non, c'est l'union qui fait la force. Nous sommes dans un monde où c'est la mondialisation, la globalisation. Aucun pays ne peut se suffire et lui seul.
Merci Lydia.
Quelle que soit la puissance économique de ce pays ou sa puissance sur le plan, je ne sais pas, armée ou autre.
Merci Lydia.
Ce pays a besoin de l'union des autres pays.
On a bien compris. Merci Lydia. Quel temps il fait, Lydia, à Nice ?
Actuellement, il fait très beau.
Bon, vous avez peut-être croisé en short Alain Marchal, qui a peut-être déjà pris des coups de soleil.
En tout cas, moi, je peux vous dire que je suis en tongs et en short.
Oh. Ah, voilà, vous avez de la chance. Parce qu'ici, nous, on est en pull, on a mis des bonnets, on attend l'été, là, dans le nord, à Paris, vous savez, vraiment dans le nord.
Oui, je connais Paris. À Nice, merci, nous, on se promène merci. À maillot de bain, je suis juste à quelques pas de la plage.
Bah, vous avez bien de la chance.
Voilà. Bon,
bien,
profitez-en bien.
Merci Romain Poiseau. Romain, en fait, il profite. Merci, et en tongs, il va se baigner ensuite, Romain.
Je profite, tout à
Allez,
fait.
Merci.
Demain, Roubaix, Romain.
Et à 11h40, on retournera écouter les Français. On sera avec Maxime, c'est un maraîcher bio du côté de l'Indre-et-Loire. Et c'est Caroline Philippe qui sera avec lui. On enchaîne. On va parler de ces drôles de candidats du côté du Rassemblement National.
RMC, les grandes gueules.
Ah oui, il y a quand même quelques zozos. On avait donc la candidate qui portait une casquette nazie. Bon, voilà. On a eu également la candidate qui nous expliquait qu'elle n'était pas raciste parce que son ophtalmo était juif et son dentiste musulman. Et là, en Mayenne, on a une candidate qui s'appelle Annibelle. Et on vient de s'apercevoir qu'elle avait été condamnée à la prison ferme en 1995 pour une prise d'otage à main armée dans une mairie du département, donc en Mayenne. Et pendant 3 heures, elle avait séquestré, sous la menace d'une carabine qu'elle portait, le secrétaire général de la mairie. Elle s'était enfermée dans son bureau à l'issue d'une bousculade. Un coup de feu avait même été tiré. Heureusement qu'il n'y avait pas de blessé, donc elle a été condamnée. Bon, après, tout le monde a le droit à une seconde chance, mais enfin bon, on a l'impression quand même au Rassemblement National. Alors à chaque fois, quand on les interroge, ils disent voilà, on n'avait pas vu, on n'avait pas su, on va la virer, on va l'évincer, hein, etc. Mais on a l'impression quand même qu'ils ont été pris de court par cette dissolution et que en 2-3 jours, il a fallu trouver 577 candidats et que parfois il y a quand même de drôles de zigotos qui ont été sélectionnés.
Si tu peux me permettre d'en rajouter un, il y en a un à Longe-le-Saunier là dans le. Dans la deuxième circonscription du Jura, qui est sous curatelle.
Ah oui.
Et qui se maintient.
Il est en tête
au premier tour.
Il est qualifié pour le deuxième tour.
Et donc, ça veut dire que l'élection sera. Enfin, il est peut-être pas en tête, mais il peut se maintenir. Mais moi, je suis très interrogatif quand même.
C'est les gens qui votent.
Qui sont les électeurs de ces gens-là, quoi?
Ils se renseignent pas.
Bah non.
Non, ils mais ça veut quand même dire aujourd'hui que. Ce qui était le cas en 2017. C'est-à-dire que n'importe quelle bicyclette avec un panneau en marche, ça passait. Oui. Et aujourd'hui, n'importe quelle bicyclette ou tricycle avec un panneau Rassemblement National, ça passe, quoi.
Sac de sable, comme disait Jacques Maillot.
Non, mais c'est quand le sac de sable. Mais... C'est vrai. Ça m'interroge quand même sur la démarche que peuvent avoir les électeurs dans un minimum de connaissance de qui sont leurs candidats. Quoi.
Alors, il y a aussi Élodie Babin, c'est la candidate fantôme. Personne ne l'a vue sur le terrain. Personne n'a entendu le son de sa voix. Personne ne sait à quoi elle ressemble, c'est parce qu'il n'y avait pas son visage sur l'affiche.
Il y avait uniquement, au milieu rural, il n'y a personne.
Il y avait uniquement l'affiche de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Elle est arrivée en tête de sa circo, c'est dans le Loiret, et donc uniquement qualifiée grâce à son étiquette. Alors peut-être que d'ici dimanche, on va voir à quoi elle ressemble. Alors maintenant, comme l'info est sortie, le visage va apparaître, mais Zora Bitton.
Non, mais c'est risible, mais en même temps, c'est dramatique pour deux raisons. La première raison, d'abord, c'est que le Rassemblement National, finalement, est une organisation politique qui, finalement, n'a pas d'adhérents sous la main pour se déployer aussi rapidement.
Pas assez, en tout cas.
Non, mais pas assez, en tout cas, ils sont pas organisés pour avoir.
Non, mais ça veut dire que les gens votent pour l'étiquette, pas pour
et
le
candidat. Ce qui est dramatique, c'est que les gens, une étiquette leur suffit. C'est-à-dire que.
Ils se renseignent pas, quoi.
Voilà. Et non, mais ça veut dire que Bardella, ça suffit.
Ah ouais. Etienne. Enfin, après, c'est vrai que pour Emmanuel Macron, on avait fait ce reportage.
Non, mais
en 2017,
c'est ça, c'est que tu vas avoir des deuxièmes tours avec un parachuté d'il y a 7 ans et un parachuté hier. Quoi.
Oui, et puis
c'est ça qui est terrible. Hein.
C'est supposé que. Alors, tout à l'heure, on critiquait les fonctionnaires, mais c'est supposé que les élus ne servent à rien et qu'en réalité, ils sont juste là pour faire beau parce que s'ils n'ont aucune compétence. À ce moment-là, on se demande à quoi ils servent.
Merci. Dans un instant, on continue de parler de ces législatives avec Loïc Signor, qui est candidat ensemble, donc macroniste dans le Val-de-Marne. Alors lui, il est arrivé troisième, il se maintient. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Il va nous dire pourquoi. Et puis on va parler de ce qui se passe. Il reste 4 jours avant le second tour. Est-ce que le pouvoir est acquis au Rassemblement National ou au contraire, grâce à ces désistements, il n'aura pas la majorité absolue? Restez avec nous, avec vous, bien sûr, avec nous au 32-16 sur RMC, RMC Story.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.